Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, Martin Scorsese. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Comment ne pas consacrer une émission à Martin Scorsese ? Sa carrière en tant que réalisateur est exceptionnelle. 27 films, dont au moins une quinzaine, sont particulièrement réussis et emblématiques. Alors ces films, je ne peux pas tous vous les citer, mais pour prendre les plus importants, vous avez Mean Street, Taxi Driver, New York, New York, Raging Bull, La couleur de l'argent, La dernière tentation du Christ, Les affranchis, Casino, À tombeau ouvert, Gang of New York, Aviator, Les Infiltrés, Shutter Island, Le Loup de Wall Street, alors Le Silence à mettre à part, j'y reviendrai, et Killer of the Flower Moon, tant pis pour l'accent, c'est le film qui sort en 2023. Alors que peut-on dire de manière générale de Scorsese sur son œuvre ? J'aurais pu faire comme Clint Eastwood ou John Ford, deux émissions, tellement son œuvre est riche. Alors, on peut dire d'abord, en premier lieu, qu'il avait pris l'habitude de réaliser un film tous les deux ans. C'est sa chronologie habituelle, tous les deux ans. Ces dernières années, comme d'autres réalisateurs, il s'est tourné vers la télévision pour arriver à financer ses films, trop chers pour les producteurs. Il va aller vers des chaînes comme Netflix. Pour reprendre certains titres et leur durée, on peut rapprocher l'œuvre de Scorsese et de David Lean, celui qui a fait Lawrence d'Arabie. Les titres de Scorsese sont parfois extrêmement longs, c'est-à-dire 3h à 3h30. Et au départ, donc dans les années 70, cela va être mesuré. Puis La dernière tentation du Christ, c'est 2h40. New York, New York, qui est antérieur, c'est aussi 2h40. Et on aboutit donc aux 3h30 dans les derniers films. Alors, admirons Scorsese pour son âge. Il a 80 ans, il a tourné Killer of the Flower Moon, un film qui nécessite des décors, un tournage, des grands acteurs, toute une logistique. Et il arrive encore à faire ça. Alors il a dit qu'il était quand même très fatigué à la fin du film, mais il a quand même tourné. Alors ce qu'on peut dire aussi, encore on peut dire pas mal de choses, c'est que l'œuvre de Scorsese est vraiment une œuvre qui aborde tous les thèmes. Plus précisément, le problème de la dimension religieuse qui va sous-tendre les autres. Il est catholique, il a eu envie peut-être d'être prêtre, ça a duré pendant un an. Donc l'interprétation catholique dans son œuvre est fondamentale. Il y a la culpabilité, il y a la rédemption, etc. etc. Et la violence apparaît comme devant à la fois être une fascination, mais aussi une répulsion. Donc les films de Scorsese deviennent classiques. Je disais Taxi Driver tout à l'heure, ou Mean Street, ou Les Affranchis, on considère Les Affranchis comme un des meilleurs films sur les gangsters, avec Il était une fois en Amérique et Le Parrain. On a des héros qui ont souvent ce sentiment de culpabilité, et cela peut être parfois simplificateur, mais la libido peut être remplacée par d'autres éléments. Bon, on pourrait dire que le recours au revolver est une solution, mais enfin ce serait un petit peu excessif, peut-être ce serait simplificateur. Donc déséquilibre des personnages, parfois un déséquilibre grave qui va souvent marquer Robert De Niro dans les personnages qu'il fait au début de l'œuvre de Scorsese. Truffaut a aussi, Scorsese a une est proche de Truffaut, c'est ce que je voulais dire en inversant, donc Scorsese est proche de Truffaut par sa connaissance encyclopédique du cinéma. Scorsese a créé des structures, des fondations pour la défense du patrimoine cinématographique. Il est toujours amoureux des vieux films et il participe à la réhabilitation de certaines œuvres qui pourraient tomber dans l'oubli ou disparaître si elles n'étaient pas remises en état et diffusées. Cet amour du cinéma s'est traduit par un documentaire qui s'intitule « Un voyage avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain ». Donc, on voit là qu'il n'est pas un amateur, mais un véritable professionnel dans ce domaine. Il a même reçu un prix qui a été décerné par l'Institut Lumière. Alors l'Institut Lumière, c'est à Lyon. Et je vous lis le texte pour laquelle son œuvre, la raison pour laquelle son œuvre a été récompensée, c'est pour sa cinéphilie généreuse, pour son inlassable combat en faveur de la sauvegarde du cinéma, pour ses fictions, ses documentaires, etc., etc. Scorsese fait partie d'une génération de réalisateurs. Ce sont les premiers à passer par les écoles de cinéma. C'est Coppola, c'est Spielberg, c'est Lucas. Cette génération de réalisateurs a été nourrie à la fois au lait de la télévision, au film à la télévision, puis à l'école du cinéma. Donc on a vraiment une capacité de ces réalisateurs à raisonner en termes de référence à des films plus anciens, ce qui apparaît parfois dans certaines œuvres. Fidélité de Scorsese, fidélité à certains acteurs. Le record est détenu par Robert De Niro, quand même 10 films, c'est lui qui est le plus présent. Leonardo DiCaprio, 6 films. Il ne faut pas oublier de citer un acteur qui est parfois dans un rôle secondaire, mais qui est absolument extraordinaire, c'est Harvey Keitel, qui a fait aussi 6 films. Et qui, dans le premier, dans Mystery, joue un véritable double de Scorsese, déchiré entre son rôle de gangster et sa foi. Donc, Harvey Keitel, on a vraiment à prendre en compte cet acteur. Il joue notamment dans Thelma et Louise, où il fait le policier qui est sensible à la personnalité et ce qui a pu arriver à Thelma et Louise. On pourrait citer pas mal d'autres films. Ce n'est pas la peine, autrement on va passer une émission sur Keitel. Alors, le problème qu'ont les acteurs, et Scorsese en parle à propos de Jerry Lewis et de Niro dans La Valse et Pantin. La Valse et Pantin, c'est pas un film très connu. En fait, De Niro fait une idole de l'homme de télévision qui est Jerry Lewis. Jerry Lewis, d'ailleurs, qui fait un rôle à contre-emploi par rapport à ses rôles comiques des décennies 50-60. Donc, le problème se produit parfois pour certains acteurs. Certains sont bons à la première prise et de plus en plus mauvais au fil des prises. D'autres sont mauvais à la première prise et sont très bons dans les prises suivantes. Ce qui fait qu'il faut parfois jongler entre les deux acteurs. Ici, Jerry Lewis, qui veut très peu de prises, et De Niro, qui veut au contraire beaucoup plus de prises. Le style de Scorsese, ce sera aussi la manière de tourner les lumières. Il y a une volonté de filmer parfois les visages. Et dans certaines prises, il peut oublier la caméra et s'intéresser seulement au visage et au son. On peut faire un parallèle avec Pagnol, Marcel Pagnol, qui allait dans le camion son et juger la prise sur le son uniquement. Pour Scorsese, rien n'est à écarter. Les plans fixes, les plans longs, les travelling, les plans séquences. Et enfin, comme tout réalisateur devrait le faire, il monte ses films. Aux États-Unis, on dit que c'est le producteur qui a le final cut, c'est-à-dire le coup de ciseau final. En France, c'est l'auteur, puisqu'on défend l'auteur. Aux États-Unis, c'est le producteur qui est le chef. Mais, bien sûr, les plus grands réalisateurs vont faire apparaître une clause dans leur contrat pour qu'ils puissent avoir le final cut. Donc, le film se fait au montage, on ne peut pas dire le contraire, et il prend sa forme définitive à ce moment-là. Alors, parmi tous les films de Scorsese, on devrait écouter peut-être 20 musiques, j'ai été obligé d'en sélectionner certaines. On va commencer par New York, New York, qui est un film avec Liza Minnelli et De Niro, qui est assez beau plastiquement et qui relate les amours contrariés parfois d'un clarinettiste et d'une chanteuse. Donc c'est Liza Minnelli qui va chanter dans le film New York, New York.
City that doesn't sleep. I'll make a brand new start of it in all New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York.
Voilà, musique célèbre qui a été reprise ensuite par différents chanteurs, en particulier par Sinatra, qui a donné aussi une très belle interprétation de l'œuvre. Mais là, vous avez entendu la version originale, la première version, par Liza Minnelli. Liza Minnelli, qui c'est la fille de Vincent Minnelli et de Judy Garland, donc un grand, grand, grand réalisateur, une grande, grande chanteuse, et qui a quand même eu des difficultés, puisque sa mère était vraiment fortement déséquilibrée, son père moins, et elle a eu du mal à dégager une personnalité propre. Pour revenir à Scorsese, alors Scorsese, il faut savoir, ça fait partie des éléments importants, il fait environ 1m60, et il parle comme une mitraillette. Donc quand il était plus jeune, cela lui posait quelques problèmes, certainement de séduction et d'autres problèmes relationnels, et on peut considérer qu'il a compensé ses problèmes d'enfant et d'adolescent plus petit par cette volonté d'une vie culturelle intense. Il va, comme je le disais tout à l'heure, entrer au séminaire pendant quelques mois, mais il ne va pas y rester. Mais c'est extrêmement important parce que cette approche de la religion, elle sous-tend son œuvre. Je l'ai évoqué en introduction de cette émission. Il y a véritablement une fascination-répulsion pour la situation de gangster. On peut être à la fois l'un et l'autre, c'est du moins ce que certains vont réaliser dans la mafia. Donc, les films de Scorsese, pour retenir quelques films parlants, d'abord, il y a Mean Street. Alors, c'est son troisième film, Mean Street, mais c'est déjà une thématique très forte. Le personnage principal est joué par Harvey Keitel, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui est à la fois un gangster, mais qui va aussi être très croyant. Donc, il va passer une partie de sa vie dans les églises à prier, à demander pardon, et l'autre partie à son activité de gangster. Autre acteur qui apparaît pour la première fois chez Scorsese, celui qui a fait 10 films, Robert De Niro. Alors là, Robert De Niro fait une sorte de chien fou. C'est quelqu'un qui est très proche de Harvey Keitel, qui essaie régulièrement de le calmer, mais régulièrement aussi, il met la panique, il se bat. Et donc là, un des premiers rôles de Niro, c'est vraiment la folie, l'agressivité permanente. Et surtout dans cette thématique de liaison, répulsion, fascination entre gangstérisme et religion. On ne peut que citer ensuite Taxi Driver, qui sera son cinquième film. Taxi Driver, Palme d'Or à Cannes. C'est ce film où Robert De Niro, encore lui, est chauffeur de taxi, c'est un ancien du Vietnam, et il veut absolument faire quelque chose d'important. Alors, à un moment, il hésite à tuer un candidat à une élection, mais finalement, il n'y arrive pas, il ne le fait pas. Et donc, du coup, il va essayer d'intervenir dans une situation où un souteneur qui est joué par qui ? Harvey Keitel, va séquestrer et prostituer Jodie Foster. Jodie Foster, qui est ici dans ses premiers rôles, elle a fait du mannequinat, des photos d'enfants, etc. Et là, elle fait la prostituée. Et elle est très très jeune, elle est maquillée, elle est vraiment tout à fait crédible. Et Harvey Keitel s'est trouvé une tenue absolument improbable dans le rôle du souteneur. Donc très très important, Taxi Driver, un tournant, parce que quand on a une Palme d'Or, on peut avoir des budgets pour faire autre chose. Et justement, le film qui est après, c'est un des films les plus gros budgets, un des plus gros budgets qu'il a eu de tout temps, et le plus gros budget qu'il a eu depuis qu'il tourne. Dans New York, New York, c'est la liaison sur un certain nombre d'années de Robert De Niro et de Liza Minnelli. Et donc, je ne passe pas sans mentionner la chanson que vous avez écoutée tout à l'heure, parce qu'elle me semblait très importante à entendre. Bon, par la suite, on a plusieurs films qui sont intéressants, comme La couleur de l'argent. La couleur de l'argent, ça reprend Paul Newman. Paul Newman qui joue un rôle de champion de billard dans les années 60, et on reprend ce rôle-là, La couleur de l'argent. Et il va avoir avec lui, vous savez, c'est toujours le jeune loup face au vieil ours, c'est Tom Cruise, dans un de ses premiers rôles importants, qui joue le jeune face à Paul Newman. Et on peut relever un élément religieux, parce qu'il y a les championnats de billard qui se situent dans des grandes salles, immenses salles, avec des dizaines de billards. Et quand on est dans cette salle, on ne peut que penser à l'église, à l'établissement de prière, à l'établissement représentant la religion. Donc, La couleur de l'argent, fascination là encore parfois pour le religieux. Alors, en 1988, c'est là, je dirais, le sommet en matière de religion, catholique en tout cas, on verra plus tard que ce sera autre chose, La dernière tentation du Christ. La dernière tentation du Christ, c'est bien sûr la vie du Christ, mais si l'on va directement à La dernière tentation, quand le Christ est sur la croix, à un moment donné, il va se projeter dans le futur. Donc c'est une tentation. Il se voit marié, il se voit avec des enfants, et donc un avenir qui va être supprimé dans la réalité. Donc c'est un moment de projection et pas un moment de réalité. Donc là où il y a eu des problèmes avec les croyants, c'est que le film a été considéré comme attentatoire à la religion. Or finalement, si on examine la logique du film, avoir une projection dans le futur et puis finalement revenir au présent et dire ben non, en fait, je meurs, je me sacrifie, ça ne remet pas en cause fondamentalement la réflexion. Donc le fait que Jésus devienne une sorte de patriarche, c'est une situation qui sera une projection et pas une réalité. Donc important de le préciser parce que il y a eu des écrans qui ont été remplis d'encre, il y a eu des halls de cinéma qui ont été dévastés. Ça se passe chaque fois, quelle que soit la religion, avec ce refus de la moindre critique ou de la moindre analyse qui serait contraire. Alors, après le film de religion, on arrive aux Affranchis. Aux Affranchis 1990. J'ai toujours rêvé d'être un gangster. C'est ce que dit le personnage principal, qui va ensuite accepter de trahir les siens, mais qui va côtoyer en particulier Robert De Niro et Joe Pesci. Alors là, on ne peut que s'arrêter sur Joe Pesci. C'est l'acteur, petit acteur par la taille, mais grand acteur. Dans Les Affranchis, il obtiendra un Oscar pour le second rôle. Il fait ce gangster qui est toujours prêt à péter les plombs avec deux scènes d'anthologie. Une scène où il va faire semblant de se monter dans la violence pour pratiquement tuer celui qui est en face de lui. Celui qui est en face de lui se met à avoir peur. Et puis à un moment donné, Joe Pesci éclate de rire en disant « Ah mais non, c'est une plaisanterie ». Et par contre, la seconde scène, il sera dans un bar. Le garçon ne va pas assez vite, donc il lui tire dessus. Et finalement, il le tue. Pour rien, pour le plaisir. Dans la première scène des Affranchis aussi, on le voit ce qui s'est passé par la suite. On le voit avec ses deux amis, De Niro et le héros, en train de tirer dans une malle parce qu'il y a la personne qui est en dessous et puis de l'enterrer. Donc la scène est, on peut dire, une scène culte qui vraiment peut être revue. Les gangsters, la mafia, Casino, 1995, là encore, les gangsters. Robert De Niro va faire ici un directeur d'hôtel et de casino. Hein, vous savez qu'à Las Vegas, on a le mélange des deux, le casino et l'hôtel, l'hôtel et le casino. On descend et puis on peut jouer sur toutes les machines qui soient. Alors, le film a une longue durée. C'est un des premiers films qui va durer environ 3 heures. Mais on voit des personnages qui sont tout à fait crédibles. Alors, Joe Pesci, encore lui, qui est toujours vraiment extraordinaire. Et là, on a Sharon Stone qui entre dans le film. Et Robert De Niro la prendra comme compagne. Mais par la suite, Joe Pesci le trompera avec elle. Donc, Joe Pesci, pour dire aussi une référence, c'est dans L'Arme Fatale. L'Arme Fatale, il joue ce personnage qui est toujours en train de vouloir faire le flic et qui poursuit les deux acteurs, Mel Gibson et Danny Glover. Donc, Joe Pesci est vraiment un acteur qu'il faut remarquer, un acteur qui est absolument fabuleux. Dans ce rôle des Affranchis, bon, il est unique. Vraiment, les Affranchis, c'est absolument exceptionnel pour cela. Alors, nous avons quand même un certain nombre de musiques à écouter. Et après New York, New York, nous allons écouter Taxi Driver. Avant de reprendre la chronologie des films, il y a à mentionner son rôle en tant que président du jury du Festival de Cannes en 1998. La Palme d'Or, ce sera un film d'Angelopoulos. Bon, alors ça, ce sont des films aussi qui durent 3 heures, mais qui sont vraiment arrêt, essai, pur et dur. Mais ce qui va être particulièrement amusant et laisse un souvenir, même ceux qui ne connaissent pas trop Scorsese ou Roberto Benigni, c'est qu'un acteur donc, qui s'appelle Roberto Benigni, qui est aussi un réalisateur, a réalisé un film, La vie est belle, assez difficile parce qu'il se passe dans un camp de concentration et le père doit donner l'impression au fils que c'est un jeu. Et quand il est récompensé par le Grand Prix, d'ailleurs il semble ne pas savoir si c'est la Palme d'Or, le Grand Prix, etc., il va se jeter devant Scorsese et d'abord se mettre à ses pieds, puis après ils vont se congratuler. Mais cette scène où Roberto Benigni se met au pied de Scorsese est vraiment extrêmement, extrêmement amusante. Alors je reviens à la religion. Kundun, c'est un film qui, en 1997, évoque la jeunesse du Dalai Lama. On a, vous le voyez donc, une sorte de mysticisme, mais un mysticisme qui n'est pas limité au catholicisme. Un mysticisme qui va correspondre à toutes les religions. Donc le rôle de Scorsese dans ce film, c'est de vulgariser en quelque sorte cette religion et de montrer ce qui a pu se passer. Alors je saute un autre film et je reviendrai en arrière, qui s'appelle Silence en 2016 et qui montre des religieux qui vont à la recherche d'un autre religieux qui aurait été conduit à rejeter sa religion pour en adopter une autre. Et ces religieux se promènent, entre guillemets, dans une civilisation qui les rejette. Et le christianisme est seulement pratiqué par quelques personnes qui vont s'occuper d'elles et les protéger. Alors, il y a le problème de la religion. Est-ce qu'on peut la respecter? Est-ce qu'on peut aussi abjurer? Et en ayant abjuré, est-ce qu'il n'est pas possible de remettre en cause ce rejet de la religion? Et on a donc dans le film Silence, qui dure 3 heures, un très très beau film, je dirais un magnifique film, ignoré, parce que la sortie en salle n'a pas été bonne. Donc si vous pouvez le voir, Silence de 2016, c'est un film un peu ardu, mais qui est très 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 fort sur la religion. Alors je reviens un petit peu en arrière, en 2002, il y a un film qui a marqué, c'est Gang of New York. Gang of New York, avec Daniel Day-Lewis qui fait le méchant, et on a déjà Leonardo DiCaprio qui va entrer dans l'univers de Scorsese. Le film est extrêmement violent, mais c'est pas les gangs aujourd'hui, c'est les gangs du 19e siècle. En réalité, l'opposition entre quartiers et entre Italiens, Irlandais, etc., etc. Donc les gangs à New York. Après, toujours avec Leonardo DiCaprio, on a Aviator. Aviator, donc, sur le magnat Howard Hughes, qui va tourner des films, qui va avoir des richesses, prendre des maîtresses comme actrice ou l'inverse, et une rapidité, un rythme absolument extraordinaire pour décrire ce film. Et Aviator, au départ, il s'agit d'un film de guerre avec des avions, et il va réclamer des quantités d'avions. On pense qu'il devient fou, mais en réalité, on a une situation où il arrive à tout contrôler et à sortir un film qui va avoir beaucoup de succès. On a donc plusieurs musiques qui sont à écouter, et maintenant c'est celle des Affranchis. I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. My clothes may still be torn and tattered, but in my heart I'd be a king. Love is all that ever mattered. It's everything.
and kiss me and tell me you're mine evermore. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up to you. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up.
Le film suivant, c'est exceptionnel chez Scorsese, c'est un remake. Il y a en effet un film asiatique qui a été tourné avec ce sujet, c'est-à-dire du côté des policiers, un gangster qui se fait passer pour un policier, et du côté des gangsters, un policier qui se fait passer pour un gangster. Donc tout le jeu qui est fait, c'est entre Leonardo DiCaprio et Matt Damon, pour savoir qui trahit et comment la personne trahit. Donc c'est un jeu qui est assez original et délicat à jouer, et il est véritablement passionnant par le minutage. Alors un téléphone se lance, il sonne, qui a sonné, pourquoi, on recherche qui l'a fait. Bon, vraiment les infiltrés. Il y a en plus quelqu'un qui a pas trop joué chez Scorsese, qui est Jack Nicholson. Jack Nicholson fait le gangster qui a dressé son homme de main à devenir policier. Et Jack Nicholson, il a une violence, une domination du rôle qui est, comme toujours, exceptionnelle. D'ailleurs, il faut peut-être faire une émission sur Jack Nicholson qui a marqué de manière très claire l'histoire du cinéma du XXe siècle et du XXIe, depuis les années fin des 50 jusqu'à aujourd'hui. Bon, quoi qu'il en soit, on a, avec Les Infiltrés, un film, encore une fois, remarquable, qui dure seulement, si je puis dire, 2h30. Par la suite, un petit mot sur Hugo Cabret, qui n'est pas très connu, mais qui est un film à voir, parce qu'il porte sur Georges Méliès. Georges Méliès, le grand Méliès qui a tout inventé au niveau du trucage à l'écran, fin 19e, début 20e, a fini plutôt ruiné, et il était dans sa dernière fonction. Il était en train d'être présent dans un endroit où on pouvait faire venir les enfants. Donc, le film est un film totalement différent de toute l'œuvre de Scorsese, parce qu'il a voulu tourner un film sur Méliès. Le Loup de Wall Street, alors là, complètement déjanté, 3h20, et un personnage, Leonardo DiCaprio, qui est tombé dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, et qui monte des opérations financières pour dévaliser le petit épargnant. Leonardo DiCaprio est exceptionnel, c'est pas nouveau, il a été quand même souvent, en particulier chez Scorsese, et toute la violence, toute fascination ou l'utilisation de la drogue, de l'alcool, du sexe, tout cela finit par aboutir à ce qu'il soit suivi par la police. Et il y a une scène assez fabuleuse dans le film, qui est Leonardo DiCaprio est sur son bateau, débarquent deux agents qui vont essayer de faire un contrôle sur lui, et il finit, et alors il se vante, il fait des histoires, et puis tout d'un coup, il suggère qu'il pourrait leur donner une amélioration de leur salaire. Et alors le policier, qui est totalement hostile à cela, le regarde en lui disant « Mais vous essayez de faire la corruption ?»« Ah non, non, c'est pas du tout la corruption, je voulais pas vous dire ça. »« Non, non, c'est pas du tout le cas. » Alors j'ai cité « Silence » ensuite, ce film dont je vous recommande la vision, même s'il est austère. Il a tourné The Irishman en 2019 et donc on arrive à Killer of the Flower Moon en 2023. Il a affirmé d'ailleurs que dans sa dernière période, il a eu du mal à trouver un financement. Financement parce que les producteurs ne veulent plus s'investir. J'ai retrouvé un entretien qui date de ces jours-ci sur la question. Il dit, si j'ai pu réaliser en liberté mes derniers films, The Irishman et Killers of the Flower Moon, respectivement pour Netflix et Apple, c'est parce qu'ils ont pris le relais des studios qui ne voulaient plus financer. Et il expliquait qu'il était prêt en 2010, après Les Infiltrés, et Shutter Island a arrêté tout. Et il considère qu'autrefois, dans la période d'âge d'or hollywoodien, il y avait une tension producteur-scénariste, mais il y avait de grandes œuvres. Et il ajoute, aujourd'hui, le cinéma n'est plus considéré comme un art. Et il avait fait une tribune en 2019 dans le New York Times contre les blockbusters qui était intitulé « J'ai dit que les films Marvel n'étaient pas du cinéma, laissez-moi vous expliquer ». Donc, lui a toujours vécu le cinéma en salle, il a du mal à l'imaginer autrement. Il a toujours entretenu une relation riche avec les critiques et les cinéphiles, mais on voit bien que ce qu'il dit est tout à fait exact. C'est-à-dire, on va peut-être vers une forme différente de cinéma. Alors, on peut espérer que non, parce qu'on a parlé dans les années 50, quand la télévision est arrivée, de la fin du cinéma. Aujourd'hui, on dit une transformation du cinéma. Quoi qu'il en soit, Martin Scorsese a vraiment marqué par son œuvre le cinéma américain. Il a, à travers ses 25 films, une situation de choix dans la hiérarchie des réalisateurs de la deuxième partie, la quatrième partie du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Donc voilà, félicitations Martin Scorsese, qui a toujours été génial. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Léo Touroult. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous. Thank you.